Radio Star
Bell. Morning Edition from NPR.
France Inter, le 18-20.
Une nuit, ils sont venus à trois dans ma cellule. Ils m'ont dit, les terroristes n'ont pas besoin de livres. Puis ils m'ont frappé. Le chef d'équipe est devenu fou. Il a dit, vous n'êtes que des chiens.
Un témoignage édifiant, un témoignage effroyable que vous entendrez dans l'escale reportage d'un jour dans le monde, dans les prisons turques où sont enfermés les Kurdes, des conditions maintes fois dénoncées par les Nations Unies et sans résultat. Ce soir également, un Zuckerberg peut en cacher un autre, mais les excuses d'un autre calibre quand il est chinois sont d'un autre calibre, vous le verrez, quand il est chinois. Vous comprendrez aussi avec Sous les radars et Florence Paracolo ce qu'on peut voir à la télévision belge en ce moment. 18h50, le cinéma en VO et Corinne Pellissier d'une humeur de chien ce soir. C'est pour la bonne cause. Elle a vu L'île aux chiens de Wes Anderson. Elle a adoré. 18h55, Jean-Marc Four met le monde à l'envers. Lui a vu le vrai Zuckerberg. Et si vous pensez que Facebook va changer, eh bien vous serez déçus. Mais avant une journée d'invective entre Trump et Poutine. Et on n'est pas plus avancé pour l'instant sur les préparatifs de frappe en Syrie. On y vient tout de suite. Le monde est vaste et on n'a qu'une heure. Bonsoir.
Fabienne Saint-Ès. Un jour dans le monde.
L'actualité a parfois, souvent, des airs de déjà-vu. Ces dernières 24 heures n'échappent pas à cette règle. Les ingrédients sont rigoureusement les mêmes que ce qu'on a hélas déjà vu. Une ligne rouge tracée et dépassée, les menaces, l'ONU impuissante, les États-Unis, la France et le Royaume-Uni aussi en première ligne. Et puis, on attend, mais le contexte a beaucoup changé quand même par rapport à 2013, la dernière fois qu'on a parlé de frappe sur la Syrie aussi sûrement. Les acteurs aussi ont changé. L'issue, elle, est tout aussi incertaine. Bonsoir François Hesbourg.
Bonsoir.
Vous êtes le président de l'Institut international d'études stratégiques. Et dans un instant, au téléphone, on parlera à Basma Khodmani, qui est notamment membre du comité des négociations de l'opposition syrienne. François Hesbourg, la phrase de ce matin, d'abord, pour commencer, venant de Donald Trump, qui, à direction de Poutine, dit « Préparez-vous, ça va frapper ». Si on fait abstraction du style, parce qu'on est dans le style Trump, comme d'habitude, ce qui est intéressant, quand même, c'est que le message a le mérite d'être clair. C'est pas Bachar, au fond, qu'on vise dans cette perspective de guerre. C'est bien Poutine, la ligne rouge. Elle est en face des Russes, là, en fait.
Ouais, il y a deux messages dans ce tweetos de Trump. Le premier, c'est qu'il va y avoir une frappe. Et ça, je le vois. Je vois très mal Trump en train de tourner kazakh à ce stade. Et le deuxième message, c'est effectivement celui de défi vis-à-vis de la Russie. Et moi, je ne sais pas à quoi réagissait Trump. Est-ce que c'était à la façon dont Fox News a rapporté les propos de l'ambassadeur de Russie à Beyrouth, qui expliquait que s'il y avait une frappe américaine en Syrie, la Russie tirerait sur les plateformes d'où avaient été lancés les missiles. Autrement dit, la façon dont s'est exprimé ce diplomate, pas très diplomatique, c'était que si les Américains visaient Bachar, les Russes viseraient les Américains. Donc il faut faire très attention aussi de se poser la question de savoir à quoi réagissait Trump. Cela étant dit, Trump, en disant ce qu'il a dit, a mis les Russes au défi et ça change la façon dont cette crise va évoluer.
Et ça change aussi probablement l'objectif des frappes, non ?
Je ne pense pas que ça change l'objectif des frappes. Je pense que le président Macron...
Parce que quand on veut dire c'est Poutine qu'on vise, on frappe peut-être symboliquement autre chose que quand on veut dire à Bachar el-Assad, arrête avec les armes chimiques.
Si par frappe vous voulez entendre des tweetos, oui, vous avez raison.
Alors non, je pensais aux frappes.
Si par frappe on entend les bombes qui tombent, les missiles qui s'abattent, je pense que le ciblage que j'imagine coordonné entre les Américains et les Français sera celui qui a été évoqué par le président Macron, c'est-à-dire les unités syriennes jouant un rôle ou ayant une capacité en matière de guerre chimique, ce qui fait pas mal de cibles, parce que j'allais dire toute unité d'artillerie syrienne, par exemple, est capable de faire la guerre chimique. Mais je ne pense pas qu'il y aura des objectifs autres que des objectifs syriens pur sucre.
Ça veut dire, dans ces cas-là, avec ce genre d'objectif, ça veut dire plusieurs frappes, évidemment, mais ça veut dire longuement, ça veut dire symboliquement une semaine de frappe. Ça peut ressembler à quoi, en fait, cette affaire ?
Je pense que ce sera une frappe concentrée, intense, brève, mais qui aura pour spécificité, et là ça nous renvoie à 2013, mm-hmm. Que vous évoquiez il y a quelques instants, mais concentré dans la zone de Damas. Puisque c'est dans la banlieue de Damas qu'ont eu lieu les attaques à la Douma. Et donc, ce sont des unités proches des lieux de pouvoir. Et ce sont des endroits que les Français connaissent bien, puisqu'on a quand même colonisé la Syrie pendant une trentaine d'années. Les lieux de stationnement des unités n'ont pas beaucoup changé. Je pense que le président Bachar prendra des dispositions particulières en ce qui concerne son lieu de couchage dans les prochaines nuits, par exemple.
Probablement déjà, d'ailleurs, pris ces dispositions. Justement, en parlant de Bachar, parce qu'on va revenir aux frappes un instant, mais évidemment que c'est Poutine que vise Trump là-dedans et que la symbolique, elle est vraiment là. Mais est-ce que vous avez l'impression que les Russes le maîtrisent, ce Bachar? On a beaucoup dit Bachar ne pouvait pas lâcher des bombes au chlore sans que les Russes soient au courant. Est-ce qu'on est vraiment sûr de ça, sincèrement?
Non, on n'est pas sûr de ça. Vous avez tout à fait raison. Et vous savez, lorsque vous avez une situation guerre du Vietnam, pour remonter il y a longtemps, ou des guerres comme celle de Syrie, ce n'est pas le chien qui gère sa queue, c'est la queue qui gère le chien. Mmh. Ce n'est pas la grande puissance qui dirige la petite. C'est la petite qui provoque l'action de la grande. Je ne sais pas ce que savaient les Russes, mais effectivement, à partir du moment où les Russes et les Iraniens ont décidé de soutenir Bachar, il est tranquille. Il peut faire ce qu'il veut. Parce que les Russes ne vont pas facilement changer d'orientation stratégique. Et c'est pour cela que Bachar se sent autorisé. Je ne pense pas que les Russes l'aient encouragé à faire quelque chose à la fois d'aussi épouvantable, d'aussi grotesque, et j'ajouterais en plus, d'aussi inutile, puisque la zone était en train de
nettoyer. De toute
façon,
était aux mains des forces syriennes. Et alors, pas encouragé forcément, mais au moins prévenu, là, même pas la peine, en fait, d'une certaine façon.
Je pense que Bachar n'en fait, dans ces affaires-là,
qu'à sa tête. Ce qui veut dire, ce qui change évidemment des choses pour ce qui va se passer maintenant, est-ce qu'il y a une forme d'embarras quand même de la part de la Russie dans cette histoire-là Elle ne le montre pas, elle est obligée, vous le disiez, elle a choisi son allié. Mais il y a une grosse forme d'embarras quand même.
Souvenez-vous de 2013, les Russes jouaient le même film que maintenant. Ils disaient d'abord, il n'y a rien eu. Ensuite, ils disaient, c'est les terroristes. Et puis là, tout à l'heure, il y a eu la troisième version. Alors celle-là, elle est originale. C'est la mise en scène.
La mise en scène des casques blancs qui ont mis en scène cette attaque chimique. Voilà. C'est ce que disent les Russes.
Et en 2013, il y a eu une séquence tout à fait similaire. Mais en attendant, les Russes avaient fini par réagir en disant, il faut que Bachar soit privé de l'ensemble de ses armes chimiques. Et effectivement, plus de 90% des armes chimiques de Bachar ont été évacuées et détruites, en partie grâce à la Russie. Mais visiblement, Bachar, là encore, n'en faisant qu'à sa tête, on a gardé une proportion. J'ajoute aussi une chose. Vous savez, on est au Moyen-Orient. Ouais. Rien n'est simple. Lundi matin, il y a une attaque israélienne contre une iranienne en Syrie. Les Russes n'étaient pas contents parce que ça se passait tout près d'une de leurs installations. Mais les Russes, bien sûr, prévenus par les Israéliens de ce raid, comme des raids précédents, les Israéliens font un bombardement à peu près une fois par semaine en Syrie. Et les Russes ne se mettent pas en travers. Parce que si les Iraniens, par exemple, sont les co-belligérants de circonstances des Russes en Syrie, ce ne sont pas les alliés. Dans cette affaire, il n'y a pas d'alliés, il n'y a pas d'amis.
On est alliés là, mais il ne faudrait pas prendre trop de place non plus. Donc, s'il faut tirer, tirons.
Voilà. Donc, à partir du moment où les Américains et les Français font très clairement savoir que rien d'autre que des unités syriennes ne seront visées et touchées, je pense que les Russes se tiendront à peu près aussi tranquilles qu'ils l'ont fait vis-à-vis des raids israéliens au cours de ces derniers mois, et pour d'ailleurs les mêmes raisons.
Et est-ce que ça veut dire aussi que les Russes seront prévenus lorsque les frappes viendront, comme ils l'ont été l'année dernière lorsque Trump a frappé, le temps que les Russes puissent sortir des zones et n'avoir aucun blessé de leur côté?
Personnellement, ça ne me surprendrait pas, sauf qu'avec cet échange extravagant entre les Russes et les Américains de ce matin avec Trump, et c'est typiquement le genre de choses qui risque de rendre beaucoup plus difficile ce genre de prise de précaution. Vous savez, la guerre avec Trump, ça va être quelque chose de très, 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 très compliqué à vivre.
Bonsoir, Basma Khodmani.
Bonsoir.
Merci d'être avec nous. Vous restez avec nous, François Hesbourg. Évidemment, merci d'être avec nous. Vous avez notamment, vous êtes membre notamment du comité des négociations de l'opposition syrienne. Moi, je suis assez intriguée par ce que vous pouvez penser, vous, de ce qui va se passer probablement dans les heures qui viennent. Est-ce que, de votre point de vue, vous dites, oui, de toute façon, il fallait le faire, ou est-ce que vous dites, maintenant, de toute façon, au final, pourquoi faire ?
Il faut peut-être considérer ces frappes imminentes comme une partie d'une stratégie politique. C'est ainsi que l'opposition modérée en Syrie le voit. Mm-hmm. C'est-à-dire que l'opposition modérée ne voit pas d'un très bon œil un départ violent d'Assad qui pourrait laisser la ville en chaos et le pays, il est déjà, le chaos est là, mais le vide à Damas est sans préparation et quelque chose que personne ne souhaite et pas même l'opposition démocratique, il faut être clair là-dessus. Donc une frappe qui permettrait de signifier aux Russes qu'il est temps d'arrêter, car cette question de savoir si les Russes sont responsables, co-responsables, indirectement responsables, je crois que la question ne se pose que de façon marginale, car les Russes ont autorisé à Assad la solution militaire dans les banlieues de Damas. Ils ont donné leur feu vert à ce qu'il y ait une solution militaire pour la Ghouta orientale. Or, tout était en train d'être négocié à Genève et à Astana pour que cette question soit réglée pacifiquement.
Donc, ce que vous
c'est
dites,
pourquoi nous sommes très déçus du comportement des Russes et nous ne comprenons pas. Donc, il me semble qu'il est essentiel aujourd'hui de signifier aux Russes que la solution militaire avec l'utilisation de tous les moyens, puisqu'elle ne peut être qu'avec tous les moyens et Assad n'hésite, ne recule devant rien, eh bien, elle est devenue inacceptable.
Donc,
et
en gros, les frappes, pardon, si je vous comprends bien, Basma Khodmani, les frappes, ça sert à dire à Poutine, il faut que vous maîtrisiez le Bachar maintenant, maîtrisez-le d'urgence. C'est à ça que ça sert ?
Ça sert à lui dire qu'il se comporte, et c'est un hors-la-loi total, parce que ces frappes s'appuient quand même sur le droit international. Ces frappes ne sont pas venues au moment où d'autres massacres ont eu lieu, mais pas à l'arme chimique. Or, aujourd'hui, les pays qui vont frapper ou qui entendent frapper sont armés tout de même du droit international, de l'interdiction de l'usage des armes chimiques. Donc, la Russie est tout de même embarrassée dans cette situation. Ça n'est pas très confortable pour elle, et elle a permis une situation qui mène effectivement à la mettre elle-même dans une situation de violation et de crime contre l'humanité, d'utilisation d'armes interdites, de co-responsabilité. Vous voyez, donc je crois qu'il y a un embarras russe. Je crois que les mots inacceptables, scandaleux, etc. ne signifiaient plus rien. Ils étaient devenus creux dans la mesure où il n'y avait aucune réaction et que le régime, appuyé par la Russie et l'Iran, continuait absolument à faire ce qu'il voulait sur le terrain. Il s'agit de mettre un terme à cela et de retourner à une négociation pour dire il y a deux parties ici, il n'y en a pas une qui va écrabouiller l'autre car ce qui est en train de se produire est devenu totalement inacceptable.
Ça veut dire que vous...
l'ensemble de la communauté internationale.
Ça veut dire que vous pensez, Basma Khodmani, on posera la question à François Hesbourg aussi, que la carte diplomatique peut bouger après les frappes qui auront lieu dans probablement les heures qui viennent.
Oui, ceux qui aux États-Unis ont appelé toujours à respecter cette ligne rouge établie par Obama, ceux qui appellent à des frappes ne sont pas des gens qui disent il faut achever Assad dans son palais présidentiel. Ils disent au contraire, si l'on veut être entendu, si l'on veut rééquilibrer le processus politique et si l'on veut qu'il ait une crédibilité, il faut avoir une voix militaire malheureusement, puisque ceux qui s'expriment sur le terrain, ce sont les armes des Russes, des Iraniens et du régime. Il faut donc être là également militairement.
Basma Khodmani du comité de négociation de l'opposition syrienne, merci beaucoup. J'ai envie de vous reposer la même question, François Hesbourg. Est-ce que ça sert à ça une frappe au final ? À faire quand même bouger la carte diplomatique ? Est-ce qu'on peut dire qu'elle bougera un peu après ça ?
La réponse courte, c'est qu'on ne sait pas. Et pourquoi est-ce qu'on ne sait pas ? On ne sait pas parce qu'on ne sait pas ce que Trump veut vraiment. Trump a eu cet échange...
Mais Trump et nous tous, François Hesbourg.
Non, attention. quand j'écoute le président français, je sais ce que veut le président français. Mm. C'est-à-dire, c'est pas un mystère. Mm. Pour M. Trump, c'est beaucoup plus compliqué. Parce que ce matin, il voulait faire la guerre à la Russie. Et en même temps, il voudrait tellement dealer avec la Russie. Il veut intervenir en Syrie, mais la semaine dernière, il expliquait qu'il voulait quitter la Syrie. Mmh. Et Monsieur Trump est par ailleurs sous le coup d'une enquête sur les liens entre sa campagne et la Russie. Ce qui veut dire en clair qu'il est à la fois dans un réseau de contraintes et dans un réseau de contradictions.
Oui, c'est pour ça que ses tweets étaient aussi compliqués à comprendre ce matin, par ailleurs.
Son comportement est franchement imprévisible. Je ne sais pas si la conclusion qu'il tirera de cette frappe ne sera pas exactement le contraire de ce que suggérait mon ami Bassement, à savoir que la Russie, que les États-Unis allaient pouvoir plus facilement s'extraire du jeu syrien après avoir fait une démonstration de force.
Alors j'allais dire, est-ce qu'on n'est pas aussi simplement dans le torse qu'on bombe par ailleurs de part et d'autre ? On se souvient que l'année dernière, Trump avait bombardé, puis derrière, il se passe absolument rien. Mais rien du tout.
Oui.
Personne ne bouge.
Je pense que l'opération, cette fois-ci, sera plus importante et plus secouante, si je puis dire. Poutine... Bon, bien sûr, il rencontre de grands succès au Moyen-Orient. Hein. Le fait est que la politique russe, depuis 2013, depuis qu'Obama n'a pas respecté sa propre ligne rouge, et la Russie, elle fait du 20 sur 20, point de vue de ses propres objectifs. Il n'en reste pas moins que lorsque vous êtes sur une trajectoire gagnante, à un moment donné, vous voulez pouvoir bénéficier de vos gains. Ça veut dire obtenir la solution politique qui permet de cristalliser ses intérêts. Et dans les circonstances actuelles, Poutine ne peut comprendre qu'une seule chose, c'est que personne ne va faire un accord politique avec lui dans les circonstances actuelles. Et c'est là où je rejoins Bassement. C'est que si on avait un gouvernement rationnel à Washington, et on pourrait probablement déduire de la frappe la possibilité d'une relance du dialogue politique. Mais nous sommes à l'époque de Trump.
Et l'époque de Trump n'est pas très solide, comme on dit. François Hesbourg, que va faire l'Iran pendant ce temps ? Est-ce qu'ils vont... Alors, on en a parlé un petit peu il y a un instant. Est-ce que là-dedans, ils se mettent un peu en arrière et regardent ce qui va se passer réellement ? Est-ce qu'il sortira des frappes ?
L'Iran, là aussi, joue gagnant en Syrie. La possibilité d'avoir une liaison terrestre directe entre l'Iran et les Hezbollah au sud Liban via l'Irak et la Syrie est en train de se matérialiser. Et l'Iran est par ailleurs confronté, comme nous le sommes tous, à la perspective de Trump qui, le mois prochain, risque fort de sortir de l'accord nucléaire avec l'Iran, ce qui va encore rebattre les cartes, et ce qui est aussi une des raisons pour lesquelles, je pense, moi, c'est de l'analyse, c'est pas de l'information, pour lesquelles la France s'est mise en avant dans cette affaire. Parce qu'une des façons, peut-être, d'obtenir de M. Trump qu'il ne casse pas l'accord nucléaire au mois de mai, c'est d'avoir fait le coup de feu ensemble avec lui au mois d'avril, avant la visite d'État du président Macron à Washington. Et on est donc entré dans une séquence extrêmement lourde, parce que si l'accord nucléaire avec l'Iran est brisé, les forces extrémistes en Iran vont probablement agir de façon beaucoup plus provocante qu'elles ne l'ont fait aujourd'hui, et y compris en Syrie, avec le risque d'un conflit plus ouvert que celui qui se déroule déjà entre Israël et l'Iran.
Et peut-être qu'on aura l'occasion ensemble d'ailleurs de voir si votre analyse touche la vérité. On le saura, on sera très vite fixé, j'allais dire, hélas.
Ce sera toujours un plaisir de vous revoir, mais malheureusement c'est toujours dans des circonstances comme celle-ci.
Eh bien, absolument. Et la prochaine fois, j'ai peur que ce soit encore dans une circonstance pareille. Merci beaucoup, François Hesbourg.
Je vous en prie, madame.
France Inter. Fabienne Saintès. Un jour dans le monde.
La suite d'Un jour dans le monde dans les prisons turques avec les Kurdes. Vous serez édifiés par les témoignages recueillis par Laura May Gavorio, un Zuckerberg chinois qui fait ses excuses et une émission de télé belge complètement dingue avec Florence Paracuelos. Le cinéma en VO, Corinne Pellissier, L'île aux chiens, c'est le film dont tout le monde parle, vous avez adoré.
Oui, on va parler de tics de puce et de fièvre truffoïde, car il ne fait pas bon être un chien dans le nouveau film de Wes Anderson.
Allez, à tout à l'heure, Jean-Marc Faure et le monde à l'envers. Bonsoir Jean-Marc.
Bonsoir à tous.
Et vous, vous êtes devant l'audition du vrai Zuckerberg.
Le vrai Zuckerberg, en ce moment même, à nouveau devant le Congrès américain. Il est désolé à nouveau, c'est bien le moins, mais c'est bien peu de choses.
Allez, le tour de la planète continue, il passe par l'Australie. Voici Courtney Barnett, Nameless, Faceless sur France Inter. Nameless, Faceless, Courtney Barnett sur France Inter. Florence Paracuello, c'est l'homme.
France Inter.
Good evening and welcome.
Gerasimo Capillon.
Un jour dans le monde.
Intervention extra.
Sous les radars, Florence, on commence avec les excuses du patron d'une application très populaire qui permet à ses utilisateurs de communiquer entre eux. Mais qu'est-ce donc ?
Vous pensez que je vais vous parler de Mark Zuckerberg devant le Congrès américain ?
Eh ben non.
Eh ben non, parce que c'est pas sous les radars, ça, Fabienne. Ça,
oui, c'est Jean-Marc qui s'en occupe après.
Voilà. Celui dont il est ici question s'appelle Zhang Yiming, patron chinois de Toutiao. 200 millions d'utilisateurs au compteur, c'est un agrégateur de contenu, c'est-à-dire une application qui permet de suivre des flux d'informations, puni comme d'autres applis pour n'avoir pas assez censuré les contenus déviants des valeurs centrales du socialisme, Fabienne.
Bah oui.
En l'occurrence, des blagues ou des vidéos grivoises que peuvent s'échanger les utilisateurs de Toutiao, indignes pour les autorités chinoises en croisade contre tout ce qui dépasse sur le web. Zhang Yiming s'est donc aplati littéralement par communiqué se disant rongé par la culpabilité et le remords. Je n'ai pas dormi de la nuit, dit-il aussi, pour appuyer sa détresse. Pourtant, les autorités nous avaient offert leurs nombreux conseils, dont je n'ai pas pris conscience en mon fort intérieur, mea culpa, mea maxima culpa, et Yiming de promettre d'aligner 10 000 censeurs pour ne plus rien laisser dépasser du cadre désormais sur son application.
Oui, on saura tout à l'heure, grâce à Jean-Marc Four, si Mark Zuckerberg, lui, a perdu le sommeil ou pas. Vous nous emmenez maintenant chez les Belges d'à côté, mais côté flamand, pour une émission de télé alors très très particulière, ça fait un carton. On verra bien d'ailleurs si ça en fait un chez nous. Il paraît que ce sera adapté sur nos écrans.
Le programme s'appelle Tabou, diffusé les dimanches soirs sur la télé publique flamande, présenté par un humoriste du nom de Philippe Goebbels. Il faut passer sur ce nom, je vous le demande.
Terrible.
Alex Vizorek me dit que le garçon est très drôle.
Okay.
On lui fait confiance.
Welcome à Tabou.
Le principe est le suivant. Pour chaque émission, Goebbels commence par inviter quatre personnes dans sa maison de campagne. Quatre handicapés, quatre homosexuels, quatre fils d'immigrés, quatre malades en phase terminale, quatre pauvres, ou comme ici, quatre obèses. Ils vont passer quelques jours ensemble à discuter, à rire, à raconter leurs histoires et leurs fêlures devant la caméra d'une documentariste, ce qui donne une réalisation subtile et poétique, perceptible même quand on ne parle pas un mot de flamand comme moi.
Okay.
Le temps des copains et de l'aventure.
Je suis tellement pas sûre.
Alors, passé cette séquence intimiste, place à la foule d'un théâtre plein.
Ik heb zelf een tante, tante Rita, en dat is ook een heel gezellige. Die heeft ooit een BMI proberen te berekenen en die rekenmachine is ontploft. Echt.
Au premier rang, nos quatre protagonistes et sur scène, Philippe Goebbels qui fait des vannes thématiques sur la condition de ses invités. Ça fait rire tout le monde, à commencer par eux-mêmes. Mon but avec ce programme n'est pas de blesser ces gens fantastiques, mais de les faire rire de leur situation, dit l'humoriste. C'est non seulement réussi, mais en plus le programme a battu des records d'audience. 55% des téléspectateurs en moyenne tous les dimanches, plusieurs centaines de milliers de visionnages en replay et très peu de protestations du public flamand. Ce programme culotté a été remarqué au MIP TV de Cannes, le grand salon international de la télé. Il a été racheté pour être diffusé ou adapté en France, aux Pays-Bas, aux États-Unis, au Royaume-Uni, en Israël, au Danemark, en Norvège. Donc nous sommes prévenus, ce sera bientôt à notre tour de se moquer tendrement de gens dont on ne devrait pas se moquer.
Et ben voilà, il suffit que ce soit extrêmement drôle en fait. Si c'est extrêmement drôle, ça passe.
Et si probablement fin.
Voilà, aussi.
Voilà, je ne parle pas le flamand, donc je ne peux pas tout à fait vous le confirmer. Mais
ben, on demandera à Alex Vizorek.
Alex Vizorek me dit que le monsieur est digne de confiance.
Allez, merci Florence, à demain.
France Inter.
Doha, Harare, Jérusalem,
Mika. Le 18-20.
Le Mexique est juste derrière.
Un jour dans le monde.
Séoul, Washington,
São Paulo.
Les routes France Inter.
Et c'est en Turquie que nous emmène le reportage Un jour dans le monde. Ce soir, vous connaissez l'image d'Épinal un peu caricaturale, Midnight Express, pour montrer à quoi ressemblent les prisons turques. Eh bien, parfois, on n'est pas si loin. La Turquie est toujours en état d'urgence, ça vous le savez, et dénoncée par les Nations Unies. Les détentions arbitraires, les mauvais traitements sont légion. Nous parlons quand même de 160 000 personnes qui ont été arrêtées ces 18 derniers mois. Mais si vous êtes prisonnier et kurde, c'est pire qu'une double peine. Bonsoir, Laura May Gavorio.
Bonsoir Fabienne, bonsoir à tous.
Vous revenez du sud-est kurdophone de la Turquie. La guerre larvée entre le PKK et les forces gouvernementales entraîne aussi une répression brutale contre les civils. On parle là-bas de torture, de méthodes qui rappellent les pires heures des années 90. Et c'est ce que vous ont raconté ceux que vous avez rencontrés.
Ce que vous entendez là, Fabienne, c'est une conversation téléphonique enregistrée depuis la prison de Balıkesir, dans la région de Marmara, entre un prisonnier et sa mère. Celui-là se vante d'avoir tabassé à mort un kurde du nom de Ulaş Yıldıkul avec une dizaine de voisins de cellule sous le regard complice des gardiens. On a buté un terroriste et on n'aura même pas eu à servir dans l'armée pour ça. Or, ce n'est pas un fait divers isolé, même s'il a été rapporté comme tel par les médias d'État. Car au fil des témoignages recueillis, la torture apparaît comme un système pensé et organisé par le pouvoir pour briser les populations civiles.
Quand ils m'ont transféré à la prison avec mes quatre étudiants, ils nous ont dit « Vous voulez apprendre le kurde ? Eh bien, là voilà votre école. C'est ici qu'on dresse les Kurdes. »
Je rencontre Hasan Kanec à Diyarbakır, le bastion du mouvement politique kurde. Cet écrivain, membre de la prestigieuse Association internationale du Pen Club, a été arrêté le 6 juillet 2017. Il a passé 105 jours en détention. Son crime, dispenser des cours de langue kurde et posséder dans sa bibliothèque des livres considérés comme tendancieux. Il a subi toutes les pressions pour le pousser à avouer des liens avec une organisation terroriste qu'il n'a pourtant jamais eu.
Un jour, ils ont réparti les nouveaux arrivants dans les cellules. Ils m'ont demandé « qu'est-ce que tu veux être ?» Une balance qui nous renseigne un fêteux du mouvement Gulen, un Hezbollah, la secte kurde sunnite extrémiste, ou un PKK. Je ne pouvais pas aller avec les indiques, les putschistes ou les islamistes, ils m'auraient violenté. J'ai demandé le PKK. Ils m'ont répondu « ok, si tu nous le mets par écrit ».
Après deux semaines à l'isolement, dans une cellule sans air, en pleine chaleur caniculaire, mal nourri, avec très peu d'eau pour se laver ou s'hydrater, Mamosta Hassap, comme l'appellent ses étudiants, a fini par céder. Ce document a été versé à l'instruction de son procès, qui aura lieu en mai. Il risque 15 ans de prison.
Laura May, si je vous comprends bien, ces mauvais traitements, ce ne sont pas des accidents, ils font partie d'un cadre répressif généralisé.
Oui, Fabienne, c'est une sorte d'arme de guerre à bas bruit. Très peu de gens, hormis les avocats, ont le droit d'entrer dans les prisons, voir ce qui s'y passe. Baran est l'un d'eux, j'ai changé son prénom à sa demande. Il me raconte l'état déplorable dans lequel il retrouve tous ses clients. Une situation permise par l'état d'urgence et le qualificatif de terroriste accolé à tout prisonnier d'opinion. Parmi les tortures récurrentes, une technique de privation de sommeil bien particulière.
On sait que ça se passe au minimum dans les prisons de Mersin, Tarsé et Lazig. Ils les sortent dans le couloir, les alignent à genoux. Et ils diffusent par les haut-parleurs la marche Meter, cet hymne militaire ottoman devenu le slogan des fascistes turcs. Ils les laissent des heures, des jours entiers comme ça, et les gardiens passent pour leur hurler des insultes.
Plus de 580 avocats ont été arrêtés depuis juillet 2016, et quand ils sont kurdes, ils sont eux-mêmes soumis à la torture, considérés comme impliqués dans le terrorisme pour avoir défendu des accusés de terrorisme. Alors pour me parler, Baran a pris des risques. De même que cette jeune femme, que nous appellerons Perwin, une militante socialiste encore traumatisée par son séjour de 4 mois dans une prison de type F, les plus dures. Je prends le train pour la retrouver dans une petite ville rurale, à 1 heure de Diyarbakir. Écoutez son témoignage.
Chaque contact avec les gardiens était le prétexte de violence. Mon avocat m'a dit que ma famille m'avait envoyé des lettres et des livres. Mais rien m'arrivait. Alors un jour, j'ai adressé une demande écrite à l'administration de la prison. Et après ça, ils m'ont puni. Une nuit, ils sont venus à 3 dans ma cellule. Ils m'ont dit « Les terroristes n'ont pas besoin de livres ». Puis ils m'ont frappé. Le chef d'équipe est devenu fou. Il a dit « Vous n'êtes que des chiens ». Il m'a frappé et frappé encore au visage. Et il m'a violé avec sa matraque. Après ça, les deux autres aussi m'ont violé. C'était très brutal. J'ai perdu du sang.
Des témoignages glaçants venus de Turquie, recueillis par vous, Laura Megavorio. Merci beaucoup. Au coup, To the Bone sur France Inter. Sur France Inter, To the Bone.
3, 2, 1, Inter. France Inter. Le 18-20.
Appelons ensemble votre jury.
And the winner is... Un jour dans le monde.
Le mercredi, le cinéma en VO et Corinne Pellissier, d'une humeur de chien, Corinne, aujourd'hui, mais c'est pour la bonne cause. Vive Wes Anderson et cette dystopie qui nous amène ce film formidable, L'île aux chiens, ça sort sur les écrans aujourd'hui. C'est une fable, il y a ce petit garçon qui part à la recherche de son chien, exilé de force par son oncle sur une île poubelle. Le film a déjà valu plein de récompenses à Wes Anderson. À Londres, on a organisé des séances spéciales avec les animaux. Est-ce que c'est pas formidable? Bande annonce.
The Japanese Archipelago, 20 years in the future. Canine saturation has reached epidemic proportions.
Voilà, ça nous pose un peu la dystopie. Dans 20 ans, Corinne, vous avez vu plutôt deux fois qu'une. En fait, c'est difficile de pas craquer pour cet univers très stylisé de ce réalisateur.
Reconnaissable entre mille, hein, une atmosphère toujours très vintage, des images pop et colorées, à la géométrie toujours parfaite, des personnages souvent cabossés ou abandonnés, et puis particulièrement visible dans L'île aux chiens, un intérêt très fort pour le cinéma japonais et le travail d'Akira Kurosawa, Wes Anderson.
Nous voulions au départ que le film donne l'impression d'avoir été tourné dans les années 60 et que l'action se déroule dans le futur. Genre en 2005. Un peu comme dans un film d'Akira Kurosawa avec Toshiro Mifune à l'époque d'Entre le ciel et l'enfer. Mais bien sûr, nous voulions que ce film reste très personnel, même si Kurosawa a toujours été dans nos esprits et si nous avons revu tous ses films. Et puis aussi ceux de Miyazaki, qui est pour nous une autre grande source d'inspiration. Nous voulions en quelque sorte en absorber la substance et nous l'approprier, pas pour leur rendre un hommage formel, mais leur exprimer toute notre gratitude pour ce qu'ils nous ont apporté.
Et donc Toshiro Mifune, qui est mentionné dans l'interview, sosie quasi parfait, hein, du méchant du film, le maire Kabayoshi. On suit donc les aventures de toute une horde de chiens atteints de maladies au nom horrible comme la fièvre truffoïde, exilés de force sur une île poubelle pour protéger la population. Des chiens tristes, sales, malades, affamés, en colère, qui vont se retrouver livrés à eux-mêmes, abandonnés de tous, jusqu'à l'arrivée de ce jeune pilote de 12 ans qui va apporter beaucoup de poésie à l'histoire. Mais vous l'aurez compris, il y a dans L'île aux chiens aussi une dimension très politique et un message d'appel à la tolérance.
J'ai grandi entouré de chiens et je les adore. Mais dès le départ, nous savions que nous voulions donner une dimension politique à cette histoire. Nous voulions partir d'un gouvernement imaginaire, raconter une société que l'on manipule pour la faire se retourner contre l'un de ses groupes. On n'a rien inventé, ça s'est produit des tonnes de fois dans l'histoire. Mais c'est vrai qu'au fur et à mesure de l'écriture du film, le monde autour de nous a tellement changé et pas en bien. Ça nous a forcément influencés. Le sort des réfugiés en Europe, et même ce maire que nous mettons en scène dans le film, il n'était pas censé nous faire penser à quelqu'un de précis au départ. Ce devait être un mix de différentes personnalités sur plusieurs décennies. Mais en avançant dans l'histoire, il a bien fallu se rendre à l'évidence. Il nous fait d'emblée penser à quelqu'un de bien réel aujourd'hui.
Alors il y a le propos, Corinne, et puis il y a la forme aussi, hein. C'est un film en stop motion, c'est une technique d'animation qui avait déjà été expérimentée par lui dans Fantastic Mr. Fox.
Voilà, 2 ans à filmer, 1 millier de figurines de toutes les tailles, un récit rempli de flashbacks, de digressions, d'écrans séparés qui permettent de suivre plusieurs actions en même temps. Le film est aussi très dépaysant, toutes les répliques n'ont pas été traduites, et pour une fois on dit oui à la VF supervisée par Wes Anderson, avec les voix de Vincent Lindon, Louis Garrel, Léa Seydoux et Isabelle Huppert.
On dit oui, merci beaucoup, gros casting, donc ça s'appelle L'île aux chiens, Wes Anderson. Le film est un film France Inter et ça sort aujourd'hui mercredi.
Le 18-20, Fabienne Saintès sur France Inter.
Et Jean-Marc Four qui met le monde à l'envers comme tous les soirs. Jean-Marc, le patron de Facebook, est sur le grill à nouveau. Vous avez passé une partie de votre après-midi devant lui, convoqué devant le Congrès américain, donc interrogé.
Ça continue en ce moment.
Et ça continue en ce moment, ça va durer comme hier, sûrement à peu près 5 heures. Il doit expliquer, notamment s'expliquer sur le fameux scandale Cambridge Analytica qui a vu le piratage de données de près de 90 millions d'utilisateurs. Des fois, il faut rappeler les chiffres. C'est un moment fort, mais dans votre monde à l'envers, vous dites, ouais, mais on est loin du compte.
C'est vrai que d'abord, on se dit, waouh, l'homme invisible, hein, celui qu'on ne voit jamais, qui est convoqué manu militari par le Congrès américain, il obtempère. Puis en plus, pour l'occasion, il abandonne son t-shirt habituel, il vient en costume cravate. On se dit, cette fois, ça va chauffer pour son matricule. Sauf que, pas vraiment. En fait, Mark Zuckerberg fait le service minimum. Hier soir, comme cet après-midi, hein, j'ai regardé effectivement jusqu'à maintenant. C'est un peu plus serré quand même aujourd'hui, mais quand même, self-control sur la forme, service minimum sur le fond. Cet après-midi, comme hier soir, il a commencé en disant « It's my mistake, I'm sorry ». La belle affaire, hein, le multimilliardaire de 33 ans, 7e fortune du monde, est désolé. Il est désolé que les données personnelles de 90 millions de personnes aient été siphonnées à des fins de profilage politique. Il ajoute « Il faut faire plus contre le piratage de données, il faut sans doute changer de philosophie ». Bon, dont acte. Mais alors, quand on en arrive à la question clé, c'est-à-dire le besoin d'une réglementation plus stricte sur la protection de la vie privée, alors là, la réponse, ça devient « Oui, mais non, pas vraiment, parce que ça pourrait nuire au dynamisme économique, dissuader la création de nouvelles start-up ». Enfin, vous voyez. Donc, sur la forme, il ne se laisse pas déstabiliser, et sur le fond, il gagne du temps. En même temps, je vais vous dire à quoi bon, puisque faire acte de contrition, ça suffit. Le cours de l'action Facebook était en hausse de 4,5% hier soir à la clôture.
Alors, bon, en même temps, Jean-Marc, cette convocation, c'est quand même une drôle de grande première, non ?
Oui, c'est vrai, mais alors est-ce que cette première sera suivie d'une deuxième, d'une troisième, etc. ? Parce que le sujet va au-delà de Facebook et de Cambridge Analytica. Du côté des pirates d'abord, deux autres sociétés au moins ont déjà été prises la main dans le sac, QBU et AggregateIQ. Cette dernière a même revendiqué avoir influencé le vote sur le Brexit. Du côté ensuite, des moteurs de recherche, des réseaux sociaux, la question des données personnelles vaut pour tout le monde. Google, Twitter, Instagram, YouTube, qui fait d'ailleurs l'objet d'une enquête aux États-Unis, sur quoi ? Sur le profilage des enfants qui regardent des vidéos sur ce support. Toutes ces sociétés promettent grosso modo la même chose, s'auto-réguler. Franchement, c'est un peu, si vous voulez, comme de croire, je ne sais pas moi, un ogre qui promettrait d'arrêter de manger, vous voyez le genre.
Donc,
le Congrès américain donc, va-t-il enchaîner en convoquant les patrons de toutes ces boîtes pour répondre aux deux mêmes questions ? Un, ces sociétés de l'Internet s'estiment-elles responsables ou non de ce qu'elles contribuent à diffuser ou est-ce qu'elles continuent de jouer Ponce-Pilate ? Deux, ces sociétés vont-elles enfin se décider à mieux protéger la vie privée ? Ce qui est très révélateur, c'est le moment, hier soir, où Zuckerberg a été déstabilisé, un seul moment en fait. C'est lors de cette question apparemment anodine écoutée d'un sénateur de l'Illinois, Dick Durbin.
Would you be comfortable sharing with us the name of the hotel you stayed in last night?
Il a demandé à Zuckerberg s'il aimerait que tout le monde sache dans quel hôtel il a dormi hier soir.
No.
Il hésite, Zuckerberg, et répond non. Et là, le sénateur répond, c'est exactement le sujet dont nous parlons, c'est la protection de la vie privée.
Donc la question que vous soulevez, c'est est-ce qu'il va y avoir une suite là-dedans en
Exactement, ça va se jouer sur deux terrains. La politique d'abord, les États-Unis vont-ils changer de législation, faire ce que l'Europe vient de faire avec la RGPD, la réglementation sur la protection des données personnelles qui entre en vigueur dans un mois et demi pour qu'à minima, l'internaute sache là où il met les pieds. Le dernier à avoir essayé, c'était Obama en 2012 et son propre parti l'a retoqué parce qu'il faut dire que les sociétés de l'Internet, Google en tête, sont les championnes du lobbying à Washington. C'est un peu comme, si vous voulez, avec la NRA et le contrôle des armes. Une fois passé le moment de l'émotion, est-ce que la loi est modifiée ? Oui ou non ? On verra. Et puis au-delà de la politique, il y a la société. Parmi les 2 milliards d'utilisateurs de Facebook, plus du quart de la planète, combien vont accroître leur vigilance ? Combien serons-nous à réaliser que le prix de cette gratuité tellement séduisante de l'Internet, c'est nous-mêmes, nos pensées, nos habitudes, nos choix, nos données revendues à des compagnies tiers, parce que c'est bien ça le modèle économique en cause. Donc la transparence sur notre vie, avec ou sans notre consentement. Et ça, ça a de quoi faire saliver n'importe quel dictateur.
Et ouais, Jean-Marc, vous avez une page Facebook.
Et oui.
Vous avez un compte Twitter.
Je n'en dirai pas davantage.
Voilà. Et aussi un compte Instagram, comme nous tous. Ah, on est tous les mêmes.